Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue à Juste entre toi et moi. Bienvenue à cet autre épisode mettant en vedette un personnage à la fois sage et tannant de la culture québécoise. Parce qu'après Marcel Sabourin, c'est aujourd'hui Louise Latraverse que je reçois. Louise Latraverse, elle avait promis il y a longtemps qu'elle n'écrirait jamais son autobiographie. Mais c'est quand même un peu ce qu'elle fait ces temps-ci, en présentant partout au Québec son spectacle « L'amour, Chris ». Elle lance aussi la semaine prochaine un livre tout simplement intitulé « Louise Latraverse ». C'est un livre qui contient plusieurs de ses dessins, plusieurs photos d'archives, plusieurs fragments de textes écrits par Louise. C'est un livre dans lequel elle raconte son enfance, le début de sa carrière, son mariage avec Emmett Grogan, figure de proue du mouvement hippie. Elle raconte aussi son voyage en Inde. C'est de tout ça et encore plus dont il sera question dans cette entrevue que vous vous apprêtez à écouter. Le temps que je vous rappelle que vous pouvez lire le texte que j'ai tiré de cette rencontre dans La Presse Plus, sur lapresse.ca ou dans votre téléphone sur La Presse Mobile. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Et voici sans plus tarder mon entretien avec la Too Much, Louise Latraverse. Le 10 mai 1969, s'amorçait la présentation du spectacle Les Girls.
Oui.
Moi, je suis triste de ne pas avoir pu assister à ce spectacle-là.
T'aurais aimé ça.
Puis il y a très peu d'images qui existent des Girls.
Oui.
Ça ressemblait à quoi? Pouvez-vous me décrire ce spectacle-là?
Il y a eu quelqu'un qui a eu qui a un film, mais c'était le chum d'une des filles, puis il a cassé, puis il s'est fâché, puis il n'a jamais voulu nous donner. Je ne dirai pas son nom parce que je suis fâchée contre lui.
C'était le chum de qui?
Ben là, si je te dis la fille, tu vas savoir le chum. Il n'a jamais voulu nous le donner, donc on a très peu. C'est épouvantable, on a tout essayé. J'ai dit, coudonc, fâché. Mauvais, hein? Alors, oui, qu'est-ce que tu m'as posé comme question?
C'était comment? Pouvez-vous me le décrire? Puisque je ne le verrai vraisemblablement jamais.
Ben, tu vois, c'est l'époque, là, on est 70, là.
C'est le 10 69. mai 69, la première représentation.
Donc là, vient d'avoir lieu la petite chose. C'est le début de la grande révolution culturelle à travers le monde. Là. On est dedans, là. Ça se passe autant à Montréal qu'à Paris. Mai 68, on vient de vivre Ed Ashbury aux États-Unis. C'est partout, là. La jeunesse s'exprime. C'est la grande révolution culturelle de notre siècle. Il y en a toujours juste une.
Qu'est-ce qu'on voyait sur scène? Qu'est-ce qu'il y avait de la musique, des numéros comiques?
Non. D'abord, ça s'est passé simplement que on devait faire quelque chose, je sais pas, quelque chose qui est tombé à l'eau au théâtre. Et puis Clémence a dit, ou c'est moi, je pense, qui a pensé à ça, c'est moi. Parce que Robert venait de faire le 4 sous. J'ai dit, nous autres, pourquoi on fait pas un show, les filles, Chris, on pourrait appeler ça les Girls. Et de là, on s'est dit, bon, mais qui? Moi, ma grande amie, c'est Clémence, tu vois. Ça fait que je suis avec Clémence. Et puis, ben là, il y avait Diane Dufresne qui arrivait de Paris. Et Diane Dufresne, à l'époque, chantait des chansons françaises à Montmartre, avec sa belle voix. Écoute, c'était beau, Diane. Tu sais, c'est pas la Diane de maintenant.
C'était
là,
pas c'était... la Diane Dufresne excentrique des années qui ont suivi.
Non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Très française. Tu sais, puis elle chantait ses belles chansons de l'époque. Donc, elle venait, elle est arrivée de Montréal pour aller l'entendre, pour la trouver merveilleuse. Et puis, il y avait Chantal Renaud aussi, qui sortait avec Donald Lautrec, puis qui venait de faire un 45 tours. Donald avait enregistré, je pense, une chanson de chanteuse Sylvie Vartan, je ne sais trop quoi. Là, c'est « Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. » Alors, ça avait fait un tabac. Mm-hmm. Elle était cute, cute, cute. Elle était mignonne avec ses petits cheveux blonds. Elle était adorable. Et puis, il y avait Paul Bayard. Paul Bayard, elle faisait Bobinette. C'était une fille drôle, mais drôle, je ne te dis pas. Alors, on s'est retrouvés, toutes ces femmes-là, sur scène. Et là, on a dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On s'est mis à parler. J'ai des idées. Moi, le titre, en fait, c'était « Les girls, où je sortirai mes poubelles moi-même. Tu vois qu'on est dans le début du féminisme. Oui. Là, là. On entre dedans.
Parce que c'était ça l'objectif, d'arriver à un moment où les femmes sortiront leurs poubelles.
Mais tu sais, là, chialez-nous pas. On est capable de se débrouiller, puis on n'est pas des manchottes. Donc, avec Clémence, donc là, c'est ça. On se réunissait, on donnait des idées. Mais évidemment, c'est Clémence qui écrivait. Mm-hmm. Parce que c'est Clémence qui écrit mieux. C'était simple. Et puis, qui est si drôle. Alors, petit à petit, un show s'est monté. Elle nous écrivait des chansons. Moi, je chantais l'amante et l'épouse avec... avec Diane. Des fois, je pense à ça. J'ai chanté avec Diane Dufresne.
C'est pas pire.
C'était charmant. C'est pas pire. C'était jamais du culot. Et puis, on faisait des numéros, bon, des monologues, etc., des numéros de groupe. Et ça a eu du succès, là. Mais du succès. Puis là, c'était au Patriote en haut, là, sur la rue Sainte-Catherine. Puis là, ça s'est rempli. Puis le monde venait, puis on reprenait. Puis on avait toujours un fidèle spectateur devant.
C'était qui?
René Lévesque.
René Lévesque?
Était notre fan numéro un. C'est bien, hein? Il était tellement charmant.
Donc, à ce moment-là, il n'était pas premier ministre, bien sûr, mais il était déjà en politique.
Il était en politique parce que ça, c'est juste après la grève. Ben, plus longtemps après la grève de Radio-Canada. Tu sais, quand il va sortir de Radio-Canada, ça va devenir le début du RIN. Là,
si oui. Moi, je vais auquel vous avez contribué.
Ah oui, moi, je suis à la première réunion du RIN là, dans le petit local de la rue Mackay. Puis avec Marie-Josée Raymond, on avait lavé le plancher. Là. Écoute, c'était quelque chose. On était six. Ça, c'était la première réunion du RIN. Et ensuite, on va faire un grand spectacle au Forum. Puis moi, je vais animer ça au Forum, le grand show du RIN. Ça, c'était Bourgo.
Qui est-ce qui participait à ce spectacle-là au Forum pour le RIN?
Oh, je m'en souviens plus.
C'est quand même fou de s'imaginer qu'un parti politique était en mesure de remplir le Forum.
Ouais, c'était quand même, c'est formidable quand même.
Il n'y a aucun parti politique qui arriverait à faire ça aujourd'hui.
Non. Mais tu sais, oublie pas qu'il y avait Bourgo, puis il y avait des gens allumés. Tu sais, Bourgo, si c'était pas allumé un peu, tu l'aurais aimé, Bourgo. Il était formidable, qu'est-ce que tu veux. C'était un, je dirais, un homme du Moyen-Âge. Pas du Moyen-Âge, un homme de Renaissance, que je veux dire. Parce que pauvre Renaissance,
si pas
je
disais Moyen-Âge,
il me tuerait, là. Excuse-moi, Pierre. Mais oui, un homme de la Renaissance. Et il était musicien, il jouait du piano. Il était très cultivé, il lisait beaucoup. Il y avait... c'était un conteur, un raconteur. Tu sais, il était passionnant. Il était passionnant et drôle comme un singe. Et il souffrait de téléphonie aiguë. Il m'appelait au moins 8 fois par jour.
Puis vous n'étiez pas la seule qui recevait plusieurs appels de Pierre Bourgo.
Non, il y en a eu d'autres. Non, il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y avait Suzanne Lévesque, je pense.
Mais ça veut dire qu'il passait la journée au téléphone.
C'est ce qu'on a dit. On disait toujours, il passe sa vie au téléphone. Il ne fait rien dans la vie, lui, il téléphone. Puis il était toujours passionnant, puis il y avait toujours quelque chose. Puis en même temps, drôle, drôle. On a ri. J'ai 25 ans de ma vie, là, où j'entends juste des rires. Tant on a ri avec Bourgo. Il était coloré, il était fou, il était... Oui, c'était un bel esprit.
Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas su faire la carrière politique à laquelle il était promis?
Ben parce que, tu sais, au début, il y avait René Lévesque dans le chemin, là. Ils ont été confrontés tous les deux.
Ouais.
Puis après ça, ben, finalement, René Lévesque a pris le chemin le plus...
Lévesque était plus doué pour le compromis?
Je ne sais pas s'il était plus doué que le compromis, mais René Lévesque avait plus de gens qui le suivaient, je crois, que Bourgo. C'était quand même le grand journaliste. Tu sais, écoute, on écoutait son émission Point de mire, la province entière l'écoutait. Il était tellement brillant. Il était de cette belle intelligence. Je le dis toujours, il était tellement intelligent. Tu passais du temps avec René Lévesque, là, tu devenais intelligent. Tu sais ce que ça fait, les gens intelligents? Ils te rendent intelligent, forcément. Et il dansait si merveilleusement bien.
Sur quel genre de musique?
Toutes sortes de musiques qu'on mettait parce qu'on était tous des artistes.
Donc, vous avez dansé avec René Lévesque?
Ah ben oui, beaucoup. On allait danser dans des boîtes. Écoute, il était tout much, René. Là. C'était pas un homme ennuyeux, hein? Non, on allait danser. C'est drôle, hier, j'ai vu la femme de Clément Richard parce que je me souviens d'être allée chez Clément Richard qui était à l'époque ministre des Affaires culturelles à Québec et ça avait été la... Quand les grands voiliers étaient venus à Québec, ça avait été un événement incroyable. Et chez Clément Richard, c'était dans le pas le Cap Diamant, mais pas loin, là, tu sais, sur le bord du fleuve, on pouvait être très, très bien. Puis le René était là, puis on avait dansé toute la nuit. Il adorait danser. Charmant, hein?
Mais pour revenir aux Girls, spectacle auquel René Lévesque a assisté à plusieurs reprises, est-ce que vous trouvez qu'on célèbre assez la grandeur de Clémence Desrochers? Parce que lorsqu'on parle de l'humour au Québec, on parle du père de l'humour québécois, Yvon Deschamps, mais il me semble qu'on parle trop peu de la part de Clémence.
Je crois qu'on a parlé beaucoup de Clémence. Là, on n'en parle plus. Mais il faudra toujours ramener Clémence parce que, d'abord, Yvon, c'est pas un poète quand même, là. Mais Clémence était une poète.
Oui, c'était la fille d'un poète.
La fille d'un poète et la fille la plus drôle au monde. Je peux même pas te dire comment est-ce qu'elle était drôle. Puis drôle sur scène, mais dans la vie, quand on était en tournée, là, dans l'autobus, là, tu sais, quand on passait de Québec à Chicoutimi, là, elle prenait la place, elle nous faisait des shows toute la journée. C'était un feu roulant, drôle à mourir. Et nous étions tous ses cobayes, elle nous vargeait dessus, elle se servait de nous autres tout le temps, de tous nos défauts. Drôle, mais drôle, drôle. Tu ne pouvais jamais rien dire, c'était tout vrai en plus.
Des c'est cobayes consentantes.
Oui, oui, des cobayes consentantes. Puis quand elle chantait, puis quand elle nous récitait ses poèmes, qu'est-ce qu'on pleurait? On pleurait, on a donc pleuré. C'est beau.
Vous avez fait de la radio avant de devenir comédienne?
Oui, j'ai commencé de la radio à CGMT, à Chicoutimi.
Vous étiez toute jeune?
Oui, j'avais 18-19 ans, j'imagine. Mes parents étaient au Lac-Clair, et puis Pierre Tremblay, qui était le propriétaire de CGMT, était là. Puis dans les fêtes, moi, je faisais des numéros aussi, tu sais. Je chantais, ou je faisais des poèmes, ou des trucs comme ça, tu sais, parce qu'il y avait toujours... On faisait des numéros dans ce temps-là. Dans les fêtes familiales ou amicales. Mmh. Et donc, ils m'entendaient, puis ils voyaient que je connaissais toutes les chansons françaises. Et puis, parce qu'avec mon frère, nous autres, je le fais dans mon show, ça, d'ailleurs. Avec mon frère, pendant qu'on faisait la vaisselle, on chantait des chansons de Piaf. Nous autres, on adorait Piaf. En tout cas, ça fait qu'à un moment donné, ça te tenterait-tu de venir essayer de faire la radio comme speakerine?
Ah! Speakerine, ça, c'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui.
Non, hein, on ne dit plus ça du tout. Hein? Qu'est-ce qu'on dit maintenant?
Animatrice, j'imagine.
Ah oui. Ouais. Speakerine.
C'est un beau mot.
C'est un beau mot. Alors, comment tu veux dire non à ça? Tu es gênée au début, mais j'ai jamais rien fait. Voyons, je ne suis pas là à l'école. Je ne sais pas, moi. C'est de ça. Bref, je vais commencer. Je vais ouvrir le poste à 6 h le matin, puis je vais fermer le poste la semaine d'après à 1 h du matin. Alors, de 6 h le matin, puis l'autre, 1 h du matin. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Puis là, les télétypes, puis toutes les nouvelles, puis j'avais pas de technicien, puis j'allais tout chercher, puis je choisissais mes disques, et puis c'était quand même formidable, hein? L'initiative que j'avais. Des fois, j'étais toute seule dans ce poste-là. Je faisais marcher tout ça, moi, là, la petite fille de 18 ans. Je n'étais pas niaiseuse.
Donc, vous n'étiez pas du tout destinée à ce moment-là à devenir comédienne?
Non, je ne pensais pas à ça. Comédienne, non. Mais s'il y avait un air d'aller quand même, parce que, tu sais, je voyais bien qu'on aimait, qu'on appréciait, là, tu sais, certains talents que j'avais, ou ils aimaient ça, ou je les faisais rire, et puis c'est quand on est... Parce qu'en principe, moi, je suis, faut dire, la parenthèse, c'est que je suis allée à l'école anglaise.
À Arvida.
Oui, et ça ne s'était jamais vu. J'ai été la première Saguenayenne à aller à l'école anglaise parce que mon père travaillait à l'Alcan comme haut fonctionnaire. Et il disait, écoute, si tu veux gagner ta vie, là, il y a deux possibilités, infirmière ou secrétaire de haute direction. C'est sûr que les salaires entre la secrétaire et l'infirmière, le salaire était plus gros, puis moi, je ne voulais pas être infirmière du tout. Alors donc, c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé à l'école St. Patrick's High School. Et c'était des hommes qui dirigeaient avec des élèves mixtes. J'ai adoré ça. Et moi, je venais de quitter là, les sœurs du bon conseil. Comprends-tu que j'étais assez contente?
Parce que c'est ce que ça signifiait aussi à l'époque d'aller à l'école anglaise, c'est de se soustraire au joug de l'Église.
Voilà, se soustraire de l'Église, tout à fait. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ça parce que c'est exactement ça. Il y avait une liberté, comprends-tu? Puis moi, la seule quête que j'ai eue dans ma vie, c'est la liberté. Moi, je voulais la liberté. Alors, donc, ça a été formidable, ces années-là. Et j'ai rencontré des amis qui sont devenus de grands producteurs maintenant, Jack Ebert, puis tu sais, ces grands producteurs, le Chariots of...
Chariots of Fire.
Oui, c'est lui qui a fait ça. Puis, oui, des garçons doués. Alors voilà, donc c'était une vie... J'ai aimé être à l'école anglaise, puis l'école... Je voyais les petites filles avec leurs uniformes pas loin, c'était juste l'autre bord, là, avec les Sœurs du Bon Conseil. Et mon Dieu, que j'étais contente de ne pas être là.
Mais comment se conjuguait le fait que vous parliez anglais puis vos convictions indépendantistes qui vous ont mené à collaborer à la Fondation du RIN?
Ah, ça n'avait rien à voir. Ben, c'était une forme d'indépendantiste aussi, tout à coup, de pouvoir...
d'indépendance personnelle.
Oui, personnelle, de pouvoir aller dans une école d'hommes, là, juste ça, là, tu sais, être avec des gars, d'être une école mixte, de parler l'anglais. Moi, je trouve ça beau, l'anglais, j'aimais ça, apprendre l'anglais, parce que mon père me disait, si tu veux voyager dans le monde, si tu veux aller un jour faire de grandes études à McGill ou n'importe quelle université, tu pourras aussi aller dans une université anglaise. Et puis... j'ai été très, très, très heureuse dans mon école Saint-Patrick. Tu sais, la seule femme française, c'est la première dans ma région à se distinguer un peu des autres.
La petite Canadienne-Française, oui.
Canadienne-Française, ouais. C'est ça qu'on disait.
Oui. J'ai l'impression que notre entrevue, ça pourrait se résumer à moi qui prononce le nom de gens célèbres, puis vous qui me racontez une anecdote. Je me suis dit, je pourrais me préparer. Je me suis mieux préparé que ça, mais ça pourrait être juste ça aussi.
Fais comme tu veux.
Mais est-ce que ça vous agace qu'on vous demande, il était comment, lui, elle était comment, elle?
Ben non, souvent, c'est parce qu'à un moment donné, je radote, puis il faut que j'en garde pour mon show, parce que je parle de quelques personnes. Alors, des fois, je vais te dire non, viens voir mon show.
D'accord. C'est grâce à Marcel Dubé que vous êtes devenue comédienne. Est-ce que je me trompe?
Oui, si tu veux. Oui, c'est Marcel Dubé. Mais j'avais fait avant que Pierre Gauvreau faisait des émissions pour enfants. Et j'avais fait Rue de Lens avec Gilles Pelletier. On avait été tourner au Méchain. Oui, avec Pierre Dufresne sur son bateau. C'est très beau. Et après ça, je vais faire...
La côte de sable. Puis c'est là que vous avez rencontré Claude Léveillé. Pierre Bourgault et Clémence Desrochers.
Mm-hmm. Oui.
C'est riche.
C'est riche quand
comme
même.
Comme émission,
hein?
Oui.
C'est pas banal. Hein? Oui, c'est là que je vais rencontrer mes amis pour la vie. Dans le fond, tu sais, Clémence, c'est toujours mon amie. Là, je la vois moins parce que certaines de mes amies sont devenues très riches. Hein? Ça fait qu'ils habitent toutes au...
Dans les cantons de l'Est.
Dans les cantons de l'Est, sur le bord du lac Memphremagog, puis pas sévère à Miami. Ça fait que je les vois plus jamais. Moi, je suis pauvre. Fait que je ne vais pas là, moi, hein, c'est que je ne les vois plus. Je ris toujours d'eux autres. Et que vous êtes insignifiant, vous allez encore à Miami, j'en reviens pas. Je ris d'elle.
Vous savez que lorsqu'on entre votre nom dans Google,
oui.
Si on écrit Louise Latraverse, puis on commence à écrire Clémence Desrochers, ça écrit Louise Latraverse, Clémence Desrochers, conjointe.
Ça a duré toute notre vie. On a tout... C'est parce que la conjointe de Clémence s'appelle Louise. Toute ma vie, ils ont pensé que je couchais avec Clémence Desrochers. J'ai dit, vous malade? Non, c'était pas ça. Mais ça a toujours été comme ça. C'est encore là. Comment tu veux que je défasse ça, moi? S'ils veulent penser ça, ça me dérange pas.
La rumeur va vous suivre.
La rumeur, comme ça.
Toujours.
Non, je n'ai jamais été la conjointe de Clémence. Non, non. C'est Louise Colette, sa conjointe.
Mais l'affection...
L'affection demeure.
N'est pas moins authentique. Est-ce que vous avez aimé ça d'emblée, être comédienne?
J'étais contente d'être dans un milieu qui me parlait. Parce que, en fait, tu sais, tu ne deviens pas comédienne comme ça par enchantement, mais je venais d'une famille, d'une très grande famille, avec un grand-père qui était un patriarche, Henri Gagnon, qui était un homme d'affaires important et qui avait très, très grand sens de la fête. D'ailleurs, mon frère Guy Latraverse, il a été ce qu'il a été. Ça vient du patriarche. Lui, quand il faisait des fêtes, là, parce qu'il y avait plusieurs lacs, hein, le lac du grand-père emmuraillé, le lac emmuraillé, c'est joli, hein? Mm-hmm. Puis après ça, le lac des oncles, puis après ça, nous autres. Et puis, quand il faisait là, les fêtes au jour de l'an, il y avait peut-être 60 d'enfants. C'était la place des arts, là. C'était pas rien. Et puis... Il y avait deux autobus, un autobus pour les enfants et un autobus pour les parents. Fait que quand le party était fini, les enfants, on y avait une gardienne, puis les enfants, on les ramenait, puis les parents restaient pour prendre un coup toute la nuit. C'était intelligent, hein? C'était-tu fin? Faut-tu avoir le bon sens de la fête? Ça, c'était mon grand-père.
Donc, vous retrouviez, d'une certaine manière, dans le monde, dans le monde artistique que oui. vous aviez connu durant votre enfance?
Et je vois que chez ma mère, par exemple, c'est 13 enfants. C'était 9 filles, plus 2 garçons. Je ne sais pas, 9 ou 11. En tout cas, je me trompe des fois dans ces affaires-là, mais c'est pas grave.
Il n'y a personne qui va vous en tenir rigueur.
Non. Donc, chez mon grand-père, c'est ça. Donc, il y avait des fêtes incroyables. À jour de l'an, tu peux t'imaginer? Mm-hmm. Tu sais, c'était comme la place des arts. Hein. Il y avait au moins 63 petits-enfants qui étaient là, là. Puis plus tous les parents. Et puis, pour avoir un cadeau, il fallait faire un numéro. Soit jouer d'un instrument de musique, ou chanter, ou un poème. Mm-hmm. Alors, il y a un petit pouf. Puis là, ma première année, je fais mon affaire. Mais la deuxième année, moi, je ne suis pas folle, j'en prépare parce que tous mes petits cousins et mes petites cousines, ils ne veulent pas y aller. Alors, j'ai eu très, très vite un public. Et là, ils m'ont applaudi. J'ai failli mourir. J'ai tellement aimé ça, tu comprends? Et je crois que ça vient essentiellement de ça, de là. J'ai rencontré un jour Bibi Anderson, qui est, tu sais, qui est l'actrice oui. de Ingmar Bergman. Et,
grande actrice.
grande actrice. Délicieuse, à Woodstock, chez des amis. Et un jour, elle me demande... Là, je me répète, je dis ça dans mon show. Mais elle me demande comment tu es une actrice, toi, puis je raconte. Elle m'a dit la même chose chez moi à Stockholm. C'est exactement pareil. Puis là, on s'est dit bien, partout dans le monde, les actrices russes viennent toutes de la même place, on fait les mêmes choses dans leur cuisine ou dans les salons de leurs parents. T'sais. Donc, on a ça en commun, les actrices, on vient essentiellement de là.
De Stockholm à Arvida, ouais. les comédiennes naissent de la même manière.
Oui.
Vous parlez de Woodstock. Là, je fais un bond dans le temps. Vous avez assisté au festival de Woodstock
non,
en 69,
non? Non, je suis restée à la maison. Moi, je déteste les foules. Je ne vais pas dans ces affaires. Je suis fou.
Mais comment est-ce que vous avez rencontré Albert Grossman, le gérant de Bob Dylan?
J'étais à Montréal. Il y avait Gordon Shepherd, qui était un cinéaste de Toronto, mais qui était installé à Montréal. Il voulait faire un film. Et puis, il avait fait venir un des musiciens de The Band, Richard Manuel.
Richard Manuel, wow.
Oui, c'est qui?
Le bassiste.
Ah non, le pianiste.
Le pianiste, oui.
Garth.
Rick Danko, c'est le bassiste. Oui.
Rick Danko, puis oui. Robbie Robertson.
Oui.
Et alors, là, on est toute la gang là, avec Gordon, puis tout ça. Puis Richard dit, I'm going to Woodstock. Do you want to come? I said, I don't know. OK. Yeah, so let's go. Puis on est allé à Woodstock chez Albert Grossman, parce que Albert était... le manager de Bob Dylan.
Oui, de Janis Joplin, de Janis Peter Paul Joplin, Mary, de plein d'autres.
De The Band, les musiciens de The Band et Paul Butterfield, puis plein d'autres.
Donc, c'est comme ça que vous l'avez rencontré. Et c'est comme ça que vous avez rencontré votre mari.
Voilà.
Oui. À Woodstock.
Dans la cuisine. Chez Albert. Mais Albert était un homme d'une... C'était le plus grand... pourrions-nous dire, certainement le plus grand manager qui a existé. Je dis, lui, il a fait connaître Bob Dylan mondialement. Là. Tu sais, Bob Dylan, il chantait dans une petite boîte de rien à New York. Personne n'écoutait. Il avait une voix difficile. Tu sais, il en a fait la plus grande star au monde. C'était quand même assez étonnant. Là. Tu sais, c'était difficile au début d'entendre et d'aimer Bob Dylan pour beaucoup de monde. Tu comprends? Même s'il avait son génie et que nous, on l'aimait, là, mais ça a été... Alors, il en a fait une immense star. Ensuite, Janis est arrivée. Bon, c'est Janis avec tout ce qu'elle représentait. Et puis, il a mis en marché, si tu veux, ces talentueuses personnes. Et c'était un grand talent de faire ça.
Donc, vous l'avez connu, Bob Dylan?
Alors, je l'ai connu. Oui, oui, oui. Très désagréable.
C'est pas la première fois que j'entends ou que je lis ça.
C'était pas fin. C'est-à-dire, je ne sais pas que... Avec les gars, ils étaient mieux... Mais c'est souvent le cas d'un peu... Je crois qu'il était paranoïaque, en fait. Il n'aimait pas ça le monde. Il était, sa femme était si délicieuse. Mais Bob était pas... mais avec les gars, tu vois, avec Emmett, eux autres, ils s'entendaient très bien. Puis ils partaient, mais pas avec les filles.
Emmett Grogan, donc, qui était votre mari.
Oui.
Bob Dylan lui a dédié son album Street Legal en 78, après sa mort.
Oui.
Quel regard il jetait, lui, Emmett, sur la mise en marché d'un Bob Dylan, alors qu'il était, d'après ce que j'en comprends, plus radical dans son engagement?
Oui, ça n'empêchait pas que lui voulait aussi que les poètes soient entendus dans le monde. Tu sais, tout ça, ça se tenait, hein? Si on pouvait entendre Janis dans le monde entier, bon, c'était formidable. Quel cadeau, parce que Moi, je ne m'entendais pas du tout avec elle. Je ne peux même pas te dire là, comment on ne s'aimait pas, Janice et moi.
Pourquoi?
Oui, parce que c'était tellement désagréable. Elle disait toujours, « Is the French actress still here? » T'es amie avec elle. T'es toujours avec les gars, elle.
Mm.
Ça prenait un coup, aux autres, ils buvaient beaucoup de Southern Comfort.
Southern Comfort, oui, OK.
Puis les patrons, je haïssais tout ça. Là. Ça fait que moi, je m'en allais dans la cuisine de chez Albert avec d'autres amis. Avec, comment je te dirais pour t'impressionner, là? Attends, je vais t'en trouver.
Impressionnez-moi. Ben, je suis déjà pas mal impressionné. Là.
Attends que je t'en trouve un.
À partir de Bob Dylan, j'étais considérablement impressionné, Louise. Allen Ginsberg, est-ce que c'est...
C'est ce que j'allais te dire.
Ça m'impressionne.
Allen Ginsberg. Charmant, il parlait français avec moi. Mais oui, ça, c'était un autre. Un homme bien.
Un grand poète.
Grand poète, oui. Tout simple.
Est-ce que vous avez hésité à vous engager dans une relation avec, avec Emmett, compte tenu de tout ce qu'il représentait?
C'est pas vraiment, parce que, tu sais, on s'est connus, ça s'est tellement fait tout ça. Moi, il y avait des choses que je savais pas d'abord, tu sais. Bit, on présente Emmett, je veux dire, quand tu vois arriver cette espèce de grand... C'est une espèce de Clint Eastwood qui rentre dans la cuisine, là, tu sais, puis grand Irlandais, puis... J'avais son jean cintré, puis le petit jean cintré, puis la botte de cowboy, je veux dire, toutes les femmes étaient folles d'Emmett. On est à New York, là, je te, Elizabeth Taylor à n'importe quelle, toutes les femmes étaient folles des mains. Mm. Il y avait beaucoup de charisme.
Et c'est vous qui avez choisi?
C'est moi qui ai choisi. Et oui. Alors, c'est quoi la question?
Est-ce qu'il y a une part de vous qui a hésité à vous engager avec lui ou c'était trop irrésistible?
C'était irrésistible. Et puis moi, je savais pas trop. Là, il prenait de la drogue. Moi, j'étais pas très au courant de tout ça non plus. Là, tu sais. Moi, j'étais une straight bin dans ça. Là. Mais tu sais, eux autres, ils avaient quand même toute une vie que je ne connaissais pas. C'est après là, que j'ai pris contact. Puis après ça, je me suis retrouvée à Brooklyn chez ses parents. C'était des Irlandais. J'ai tellement aimé sa mère. J'ai tellement aimé le quartier irlandais de Brooklyn. J'ai adoré ça. Et puis, j'avais une voiture, là, je me promenais dans Brooklyn, j'allais chez les Italiens où personne n'allait parce qu'on me disait que c'était la mafia, que j'allais me faire tuer. Mais j'avais toujours ma petite licence du Québec, tu vois. Oh, she's French! C'était gentil. Oui, j'ai beaucoup aimé New York et Brooklyn.
Puis, pendant ce temps-là, est-ce que vous continuiez à faire carrière au Québec en même temps?
Non, il y a un bout où j'ai arrêté Québec. Quand je me suis installée à Brooklyn, j'ai arrêté de travailler parce que j'avais déménagé tous mes meubles et tout. J'avais un grand appartement à Brooklyn. J'y étais installée, là.
Puis vous aviez l'ambition de faire carrière là-bas ou de vous consacrer à votre vie de famille?
J'ai rencontré un grand, comment on dit ça, là, les agents, puis tout ça. Mais ça me tente. Ça, c'était très curieux. Je voulais que je joue dans les films, puis j'avais tout ce monde autour de moi, puis même le plus grand, là. J'oublie les noms, là, si tu veux, je ne sais pas, mais c'était un grand poète, producteur. Et puis, il y avait toujours derrière moi, je voulais jouer dans ma langue.
Mm.
Puis ça ne me lâchait pas. C'est ce qui fait que je suis revenue à Montréal, c'est parce que je voulais jouer dans ma langue, puis je voulais parler ma langue. Ça me manquait tellement. Quand j'appelais chez nous, là, puis que ma mère, je disais, qu'est-ce que vous mangez? Puis elle me disait, pâté chinois, là, je tombais dans les pommes, tu comprends-tu? La langue me manquait. Oui, je me suis ennuyée beaucoup de mon Québec. Je voulais revenir chez nous.
Ça m'amuse parce que dans une courte période de temps, vous fréquentez ces grandes figures-là de la contre-culture, ouais. Puis en même temps, vous jouez à Montréal au Théâtre des variétés, puis...
Ça, c'est plus tard, les variétés.
Mais quand même, on ne peut pas faire plus diamétralement opposé que ces deux mondes-là, que Gilles Latulippe et Bob
Dylan.
Oui,
mais tu sais, Gilles Latulippe, c'était un être merveilleux. Attends, là, tu sais, c'est juste, autre chose, mais aussi talentueux. Gilles Latulippe, c'était un être bon.
Hmm.
C'est rare qu'on rencontre la bonté. Hein. Gilles, c'en était un. Il y avait de la bonté. Et puis, il y avait ces grands... Moi, j'étais une des seules actrices... formée au théâtre, là, qui allait jouer aux variétés. Personne ne voulait y aller.
C'était snobé.
C'était snobé, mais moi, j'adorais ça, tu comprends. Le plaisir, j'ai joué avec Olivier Guimond. Et tu sais, je veux dire, attends, là, c'était pas de la... Comprends-tu? C'était formidable.
Vous pouvez dire marde, si vous voulez.
Ouais. C'est pour rire. Mais Oui, j'ai adoré. C'était de grands, grands artistes. Mais mon amie Sharon Chito aussi venait. Et toutes les deux, on était amies. Elle aussi, elle les trouvait-tu snob et insignifiant. Tu sais, parce qu'elle connaissait ces grands artistes-là.
Alors qu'ils avaient un timing comique incomparable.
Et c'est là que j'ai appris, si j'ai fait de la comédie après, c'est avec Gilles Latulippe que j'ai appris le timing. Puis là, on jouait parce que j'écrivais les pièces, puis il m'écrivait toujours des blondes de nounounes, parce que les nounounes, c'était toujours les rôles qui avaient le plus de succès, forcément. Hein. Alors, j'avais donc des rôles de nounounes. Puis là, des fois, on improvisait, puis je trouvais des gags, puis lui aussi. Puis là, je disais, oui, mais là, regarde, celui-là, on l'a fait, là, on pourrait... On est tellement bon à improviser ensemble, on s'entendait bien. Mais non, c'est Louise, quand tu as un gag, tu le gardes. Ah, alors tu vois, c'est juste comme ça que j'apprenais avec mes amis.
Moi, ce qui m'avait fasciné, je l'ai vu seulement une fois sur scène, Gilles Latulippe, c'était vers la fin de sa carrière à Drummondville.
Oui.
Ce qui m'avait fasciné, c'est le rapport au quatrième mur. C'est-à-dire qu'il y en avait un, mais pas tout à fait. Mmh. Lorsqu'on revenait de l'entracte, Gilles Latulippe s'adressait au public puis improvisait des blagues en parlant avec
puis revenait,
les spectateurs.
Puis il sortait.
Ouais.
Puis... C'était un être exquis. C'est quelqu'un... Ah oui, mon Dieu, que j'ai aimé cet homme-là. Mais c'était une passion qu'il avait pour son théâtre, pour ce monde-là. Il aurait pu jouer. Hein. Tu sais, on le demandait pour aller jouer au théâtre du Nouveau Monde, puis aller jouer des grands rôles, puis tout ça. Non. Lui, c'était le théâtre qu'il défendait.
Comment est-ce que vous définiriez la bonté, cette qualité qu'il avait, donc, Gilles Latulippe?
Est-ce que c'est la bonté? La capacité de ne pas juger, d'aimer les gens pour ce qu'ils sont. Je crois que c'est ça, la bonté, hein? D'aimer. Gilles, il était aimable, ne parlait jamais contre les autres. Jamais, 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 jamais. Moi, un peu.
La médisance,
c'est moins bonne.
C'est parfois agréable.
Ben oui,
avec les bonnes personnes.
C'est parce qu'on est dans les coulisses. C'est très drôle, les coulisses. Parce que c'est peut-être l'endroit le plus drôle dans un théâtre, ça se passe dans les coulisses. Parce qu'il y a une espèce de... Avant d'aller jouer, là, tu sais, on est tout fou, là, faut qu'on se défoule. Puis là, on va aller jouer. Que tu joues Qui a peur de Virginia Woolf ou n'importe quel grand drame, tragédie ou une comédie, on est comme des enfants fous en coulisses. Probablement pour laisser aller, tu sais, le trac, etc. Oui. Il n'y a rien, les histoires les plus sordides, on parle mal. Oh non, mais les coulisses, c'est une merveille.
Votre mariage avec Emmett a eu lieu le 24 juin 1972, jour de votre anniversaire, mm-hmm. C'est bien ça. Mm-hmm. Robert Charlebois, Mouffe, était parmi les invités. Pierre Bourgault, Peter Coyote, Robbie Robertson et son épouse Dominique. Mm-hmm. Puis Dylan devait être là, mais...
L'avion n'est jamais arrivé, puis nous, il y a une téléphonesse pour rentrer. Bon, mais il n'était pas là.
Est-ce que c'était une belle journée, un beau party?
Ben, c'était magnifique parce qu'on était dans la maison où habite Phyllis Lambert maintenant, tu sais, quand sur la rue Bonsecours, là, juste devant la petite... juste au bout, il y a la petite église, tu sais, la merveilleuse petite église. Alors, les fenêtres étaient ouvertes et puis c'était ma fête. Alors là, les gens passaient parce que c'était la Saint-Jean, le s'en allait au vieux port. Puis là, les gens, dans les fenêtres ouvertes, ils nous ont vus. Puis là, on se faisait des bye-bye, puis ils chantaient bonne fête. Puis écoute, c'était merveilleux. Oui. Puis Robert, sa fête, lui, c'est le 23. Puis Michel Tremblay, c'est le 25. On avait tous nos fêtes à peu près en même temps. Là.
Puis ils étaient tous là.
Oui.
Michel Tremblay, c'est encore un de vos grands amis.
Oui.
Vous parlez quoi, chaque jour?
Non, maintenant.
Plus maintenant.
Non, il est en Floride, lui. Alors, il passe l'hiver en Floride, mais on s'écrit, hein, quand même. Michel, il écrit tout le temps un peu sur les réseaux sociaux. Ça fait que j'y réponds. Et puis, des bouts, j'allais le voir à Key West. Et puis, là, il m'invite plus. Je sais pas, il doit avoir d'autres amis.
Mais vous êtes installé au Carré Saint-Louis avant que Michel Tremblay s'y installe et que ça devienne le lieu où tous les artistes ont vécu.
Il y avait Pauline. La première personne qui s'est installée au Carré, c'est Pauline. Et moi, je revenais de New York.
Pauline Julien.
Oui, Pauline Julien. Et moi, je revenais de New York. Alors, évidemment que je voyais que c'est Square. Tu comprends-tu, à New York, c'était ce qu'il y avait de plus célèbre. Tout le monde voulait habiter.
Oui.
Alors, quand je suis arrivée à Montréal et puis que je vois ça, je me dis, oh mon Dieu, un jour, ça va valoir une fortune habiter ici. Alors, Pauline...
Vous le saviez déjà?
Pauline avait sa maison, elle dit, viens voir, puis là, j'ai vu une maison. Mais c'est des trois rôles, hein, je veux dire, les gens vivaient dans des chambres avec des sternaux, là, pour se faire à manger. Puis, écoute, c'était épouvantable, ces maisons-là. Mais c'était quand même des magnifiques maisons victoriennes, là, tu sais, qui avaient besoin d'être retapées. Alors, j'ai acheté ma maison au Carré Saint-Louis pour 15 000 $. On m'a dit aujourd'hui qu'elle vaut 2 millions. Oui, je vais regarder.
J'ai pas de difficulté à le croire.
Ouais.
Est-ce que vous avez suffisamment connu les Rolling Stones pour me dire lequel était le plus gentil?
Moi, j'ai beaucoup aimé être un petit peu avec les Rolling Stones. Ah oui, j'avais surtout au Plaza. C'était qui? Non, ça, c'est Beatles qui était là. Moi, j'aimais Ringo et sa femme.
Maureen?
Oui, elle avait été coiffeuse. Elle était drôle, on avait eu du fun tous les deux. Oui, beaucoup. Yoko... C'est trop hermétique, là. C'est comme trop compliqué. Là. Moi, je m'essaye même pas de m'être amie avec Yoko. Tu sais. Elle est toujours en retrait. Mm. Ça doit être une femme probablement très timide. Maintenant, j'en arrive à croire que c'est pas parce que ces gens-là se donnent des airs.
Pour camoufler leur timidité.
Pour camoufler leur timidité. Mm. On a dit ça de Régent Ducharme. Moi, j'ai été amie avec Régent Ducharme pendant des années. J'en parlais jamais. C'est rare que je parle de lui. Mais Régent, tu sais, je veux dire, c'est pareil. Il m'appelait toutes les nuits pendant des années, on se parlait au téléphone. Placoteux!
Vous parliez de quoi?
De la vie. Juste, on placotait.
Puis comment vous étiez rencontrés alors que Régent Ducharme était un anonyme?
Oui, c'est chez Pauline Julien. Mm. À cette époque-là, il venait chez Pauline quand il y avait des fêtes. Mais il restait quand même... Tu sais, tu sentais... Je crois qu'il était paranoïaque. C'est simple. C'était pas plus compliqué que ça. C'est pas qu'il voulait pas se montrer. Il avait peur du monde, tu sais. C'est tout. Mais puis, il y avait Claire qui le protégeait un peu trop, comme disait Gérald.
Et son amoureuse.
Son amoureuse. Oui. C'était l'être le plus exquis, drôle. Tu sais, tout petit, avec ses petits yeux, là, un petit Indien. Là. Puis moi, il venait souvent chez nous la nuit. On sortait la nuit, nous autres, on allait sur la rue Saint-Laurent, on sortait, puis on allait dans les espèces, comment on appelle ça, là, pas les blind pigs, mais les cabarets là, de oui. danseuses nues. Puis ça. Là, on allait là parce que personne ne connaissait. Là.
Vous alliez aux danseuses nues on avec Régent Ducharme?
Ben oui, parce que là, on était tranquille. Parce que là, personne ne l'achalait. Il ne voulait pas être achalé par le monde. Il n'aimait pas ça. Je crois qu'il était... Et c'était tout simplement, je crois, un paranoïaque.
Parce qu'il y avait quand même des gens qui auraient pu le reconnaître.
Il aurait pu, mais... Mais il sortait au grand jour, là, sauf dans son quartier, là, dans le bout de la rue Notre-Dame, là, vers Griffintown, je ne sais pas trop, là, vers Atwater. Il habitait dans ce coin-là, lui. Il ne se faisait pas achaler. Mais il y avait quand même des gens qui espéraient le rencontrer, puis ils ne voulaient pas ça, ils n'aimaient pas ça.
Est-ce que vous étiez encore en contact à la fin de sa vie?
Oui.
Comment vous avez vécu son départ?
Bien, on avait toute la peine. C'était tellement... À un moment donné, on ne pouvait plus vraiment l'approcher, parce que là, Claire, elle était vraiment comme accaparée. C'est les femmes avec des hommes célèbres, des fois, là, ça capote un peu. Hein. Mais il était tellement fin, mon Dieu. Bien, le Mexique.
Donc, il était drôle dans la vie, comme il est parfois drôle dans ses livres.
Drôle, ses petits yeux rires, petits yeux d'Indien, il est intelligent. Il connaissait tout Marie-Victorin par cœur. Tu marchais avec lui dans la rue, chaque plante, puis lui, il disait quoi, puis comment ça allait faire. N'importe où, tu étais hein, dans les cracks de l'asphalte, tu connaissais la plante. Drôle, hein?
Wow. Est-ce que vous étiez encore en couple avec... Emmett Grogan, lorsqu'il est mort?
J'étais revenue vivre à Montréal avec Emmett. Et là, lui, Emmett, cette année, il est retourné à New York, mais il venait, tu sais, voyageait, mais lui, il voulait rester à New York. Et sa mère, un lundi soir, m'a appelé pour me dire que Emmett venait de mourir. J'étais avec Simone Chartrand. Oui.
Est-ce que ça vous fait encore mal de repenser à ce moment-là?
Je pleure à chaque fois. Mm. Il était beau. Il avait 34 ans, si. Voyons donc.
Votre fils était tout jeune.
Il avait 4 ans. C'était tellement triste, ça, là. Emmett était tellement magnifique. Ah oui, je pleure tout le temps. Je parle de ça, je pleure. Bon, c'est comme ça.
Je suis désolée, Louise.
Mais non, c'est pas grave. C'est bien de pleurer.
C'est vrai que ça fait du bien parfois.
Mais oui.
Mais donc, vous pensez encore à lui même après toutes ces années-là?
Ben, toujours. C'est les gens que tu as aimés, tu continues de les aimer. Je ne pense pas à lui tout le temps. Mais oui, les gens que tu as aimés, tu continues de les aimer, bien sûr. Bien sûr.
Comment on se reconstruit après une perte aussi importante que celle-là?
Tout ce que tu peux, hein. Je dis essentiellement toujours ça. Évidemment, moi, j'avais un métier, j'avais le théâtre de Katsu. Je me suis mise à travailler beaucoup au théâtre. Et puis, toujours mon métier me passionnait. Puis, c'est comme ça que j'ai repris ma vie. Puis, après ça, à un moment donné, moi, je m'en allais en Inde après ça. Là, moi, je vais aller en Inde.
Mais on va y aller en Inde.
Alors, on y va
dans quelques instants. Non, mais passons par le Katsu avant.
Ah,
vous
okay.
avez été directrice
Alors, le
du Katsu.
Katsu j'ai été
Est-ce que vous avez aimé ça, être patronne?
Ben, d'abord, j'ai acheté le Katsu, moi, avec Paul Bussonneau, Claude Léveillé. Et moi, on a acheté une synagogue.
Ça, c'est dans les années 60.
Ouais. Là, on va arranger tout ça pour en faire le Katsu. Puis là, à un moment donné, moi, je vais me tanner, puis je vais m'en aller. Puis après ça, on va revivre un bout. Puis là, on revient. Puis là, Paul me dit, bon, ben, je suis fatiguée, j'en peux plus. Fait que je vais reprendre le Katsu, hein.
On est dans les années 80.
Voilà. 70, 80? Je sais pas. Je pense pas qu'il le sait. J'ai pas le sens des dates.
De 84 à 86.
OK. Alors là, je vais travailler, là. Je vais reprendre le Katsu. Il y a 17 personnes dans la salle. Et puis, ça va mal à la chope. Ça fait que je reprends le Katsu. Puis là, je me souviens, Michel venait de faire là, les belles-sœurs, quand même. Tu sais, ça nous avait tellement chaviré, les belles-sœurs. Des gens qui parlaient comme ça, tu sais. Pas comme moi, la fille fraîche pète du Saguenay, avec mon bel accent, mais les gens de Montréal, avec leur accent, c'est tellement incroyable, tu sais. Alors, oui, j'ai beaucoup aimé ça, être directrice du Katsu.
Vous avez quand même programmé des spectacles importants, là. Being at Home with Claude.
Mais d'abord, j'ai fait Aurore, l'enfant martyr. C'est ça qui est parti. Parce que là, je me suis dit, Michel Tremblay, là, il a parlé des belles-sœurs, mais nous autres, au Saguenay, là, moi, j'avais une histoire là, qu'on racontait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui revenait tout le temps. C'était notre classique chez nous. C'était Aurore, l'enfant martyr. Alors, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas une pièce avec Aurore, l'enfant martyr? Puis là, c'est parti comme ça. Puis là, j'ai rencontré du jeune metteur en scène. Et puis, René Charcier qui est arrivé, ses petits jeans fluo, troué, sa petite face avec ses petits yeux rieurs. Et puis voilà, il m'a expliqué ce qu'il ferait avec Aurore. C'était tellement intelligent. Ça a été un énorme succès.
Une des premières pièces de Robert Lepage à
Ensuite,
Montréal a été présentée au Katsu.
Oui.
Vinci?
Alors Robert, non, après. Avant, il y a eu Dimension qu'il jouait à Québec. C'est comme ça que j'ai entendu parler de lui. D'aller voir Dimension, je l'ai fait venir à Montréal. Puis après ça, c'est tellement intéressant avec ses blocs. Je lui ai dit, ben veux-tu être un auteur en résidence? Je vais te prendre le Katsu. Puis c'est là qu'il a fait Vinci et les autres spectacles. Oui.
Donc, vous avez aimé être patronne, mais c'est à ce moment-là que vous vivez une... Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce que vous avez vécu? Une grande fatigue? Une dépression?
Oui, c'était beaucoup. Oui, c'est ça. Est-ce que le mot dépression, c'est encore... Mais une fatigue, une grande, grande fatigue. Tu sais, j'avais un enfant, je courais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis diriger un théâtre, c'était pas rien, là, tu sais. Puis moi, j'ai travaillé longtemps sans salaire au Katsu, là. Moi, j'étais une vraie dévouée, là, oui. Tu sais. J'ai pas
Pleine d'abnégation.
Oui, je faisais pas d'argent avec le Katsu. On n'avait pas d'argent.
Ce qui explique pourquoi vous n'avez pas de maison dans les cantons de l'Est, contrairement à vous.
C'est aussi simple que ça. On voit mon sens des affaires. J'avais un sens des affaires, mais pas de... Non, moi, j'ai une seule quête, toujours, je te l'ai dit, la liberté.
Comment est-ce que vous l'avez accueilli, cette grande fatigue, là, au moment où elle s'est présentée?
Ben là, j'en peux plus. Puis là, j'ai dit, ben, de la merde, je m'en vais en Inde. C'est comme ça que j'ai fait. De la merde, je m'en vais en Inde. J'avais un chum merveilleux à l'époque. Il dit, ben oui, Loulou, vas-y. Je m'en occupais. Puis j'avais une dame à la maison qui était formidable avec sa petite fille qui vivait chez nous, qui avait été travailler chez mon frère. Et puis, bon, c'était toute une famille. Puis c'était très bien. Puis il dit, va-t'en, vas-y, ça va te faire du bien. Merci, Guy Lalonde, ce charmant monsieur, je dirais, oui, parce qu'il était élégant et une belle personne. Donc, je suis partie en Inde.
Dans votre livre, vous écrivez, « J'avais voulu contrôler plusieurs événements qui se chevauchaient, qui s'entrechoquaient. Je n'y étais pas parvenu. Quelle prétention de se croire l'espace d'un instant sans limite. Les femmes sont très douées en toutes circonstances pour ce jeu de hasard. »
Ah, c'est le dis-tu. Si on pense toujours qu'on peut... Regarde, les femmes font toujours toutes. Je veux dire, les femmes font miracle après miracle. avec les enfants, puis ils courent, puis l'école, puis, tu sais, c'est pas, il n'y avait pas toutes les facilités du temps. Puis je crois, oui, les femmes sont des miracle workers. Comment on dit ça en français?
Des mères courage, des...
Des mères courage. Je crois que mère courage est le plus beau mot. Brecht en a fait aussi. Oui, c'est les mères courage.
Donc, à ce moment-là, ce que vous écrivez dans votre livre, c'est que l'élastique a lâché.
Ouais.
Il a pété. Comment vous êtes arrivé à le recoudre, l'élastique, en Inde? Qu'est-ce que vous avez trouvé en Inde?
Avant de partir, d'abord, parce que pour partir en Inde, moi, j'avais pas d'argent. Là, c'était pas simple. C'est vrai que moi, j'avais appelé au gouvernement, parce que je n'avais pas demandé de bourse, là, mais j'ai appelé au gouvernement fédéral, puis j'ai dit, est-ce qu'il y a des consulats à Madras? Je voulais aller dans le sud, parce qu'on me disait toujours que les premiers, dans un pays, il faut toujours aller d'abord dans le sud, parce que c'est plus clément que le nord, et que les choses sont plus intéressantes dans le sud, la culture, et puis, en tout cas, bref. Et puis, je me suis dit, est-ce qu'il y a une ambassade? Y a-t-il un consulat, quelque part, où je peux, en tant que Canadienne? Et on dit, non. Mais il dit, pendant qu'il me parlait, il dit, vous savez, je connais une femme qui est à Brossard et qui est professeure de Bharatanatyam. Tu sais, la danse sacrée du sud de l'Inde, là?
Que je ne connaissais pas avant de lire votre livre, mais avec laquelle je suis un peu plus familier maintenant.
Répète-moi ça, Bharatanatyam.
Je ne vais pas tenter de... Mais donc, vous avez étudié cette danse-là
non,
avec...
Non, pas du tout, non? Mais j'ai entendu parler d'elle, alors. Je l'ai retracée parce que lui m'a donné son nom. Elle est venue me voir, puis elle m'a dit, si vous allez en Inde, allez voir mon père. C'est un grand musicien, et c'est aussi un professeur de dessin, et il va vous recevoir. Alors, j'ai pris ça, moi, puis 3 semaines après, je suis partie avec rien, puis ce petit adresse-là, puis je suis partie en Inde. Et puis, quand je suis arrivée à Madras, il y avait du monde partout. Puis moi, je pensais que c'était la guerre. Puis là, je suis restée dans mon hôtel parce que je n'osais pas traverser la rue. Puis il y avait des éléphants. Puis des... Et là, le troisième jour, je réussis à sortir. Puis là, tout le monde riait de moi. Il n'y avait pas de montagne, il n'y avait rien. C'était la vie. C'était la vie de Madras. Oh mon Dieu.
Il ne se passait rien de spécial. C'était le quotidien de cette ville-là.
C'est traverser la rue, là, je te dis que ça te prenait un courage infini. Puis après ça, c'est intéressant comment dans n'importe quelle ville du monde, hein, on se recrée finalement notre monde comme on le vivait chez soi. C'est intéressant qu'on fasse ça.
Donc, l'homme dont vous parlez, cette femme-là, c'est le maître Rajam.
Maître Rajam.
Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés?
J'ai tout appris avec lui, sur sa petite, dans sa cuisine. Je suis allée pendant 3 mois, tous les jours, chez lui. Good morning, pupil. Good morning, master. Puis là, j'allais m'asseoir à la petite table dans la cuisine. Puis là, on dessinait jusqu'à de 10h à 1h30. Thank you very much. Là, on prenait le thé et je m'en allais. Et il m'a fait aussi visiter. À un moment donné, j'avais loué une voiture. Je coûtais 12 piastres, je pense, pour la journée. Puis on est allé montrer tous les grands temples, parce que les grands temples sont dans le sud de l'Inde. Et ça, je le raconte dans mon livre. Il faudrait lire mon livre pour ça, parce que je peux
pas... Allez lire le livre de Louise.
Oui, allez lire le livre de Louise. Il va sortir, là, tout bientôt, là.
Il est très, très bon et très beau aussi.
Beaucoup de dessins, des photos, parce que j'écris aussi. Alors, des extraits de choses que j'écrivais, des extraits qui venaient des fois dans un journal que je reprenais. J'ai mis des choses que j'aimais.
Vous aviez toujours refusé d'écrire votre autobiographie.
Les autobiographies conventionnelles.
Celle-là, elle est certainement pas conventionnelle.
Oui, voilà.
Mais c'est une sorte d'autobiographie. Pourquoi est-ce que vous avez accepté enfin de vous raconter un tout petit peu?
Bien, parce que c'était intéressant, parce que je racontais aussi les choses que je faisais. Je voulais juste pas que ce soit, là, tu sais, je suis née Arvida, les biographies sont en général plates. Tu as remarqué ça, toi? C'est rare, là.
Vie aussi intéressante et aussi singulière que la vôtre, j'ai la difficulté à imaginer que ça aurait donné une biographie plate.
Mais tu sais, c'était Françoise Sagan ou, je ne sais pas, Marguerite Duras, ça va. Mais en général, là, c'est plate. Hein?
Mais je pense qu'on pourrait mettre Louise Traverse dans ce groupe-là.
Paul Auster, c'est toujours bon. Mais c'est toujours un peu ennuyeux, les biographies. Pour moi, j'aime pas ça. Mais bon, le monde... Paraît-il que le monde adore ça. Alors, moi, c'est un mélange... C'est un peu plus hétéroclite, peut-on? Est-ce que je peux dire ça?
Oui. On lit votre livre, puis on a le goût de vous appeler pour que vous nous en disiez davantage.
Oui, c'est ça.
Mais il n'y a pas votre numéro de téléphone à la fin du livre.
C'est bien choquant.
Lorsque vous êtes revenu de l'Inde, est-ce que tout était réglé en vous ou c'était seulement le début du travail?
Non, il n'y a jamais rien de réglé. C'est drôle. Non, mais j'avais...
Tu me fais des faux espoirs.
Oui, oui, tu fais des faux espoirs. Mais quand même, ça élargit les... Ça élargit l'esprit et ça élargit... Bien sûr que de voyager, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, l'Inde, là, c'est un petit choc, hein? Je ne sais pas si tu le sais, là. Mais, et puis là, c'était en 95, imagine-toi maintenant. Mais j'ai tellement aimé ce pays que j'ai aimé l'Inde, que j'ai aimé les Indiens. Ils sont beaux. Ils sont ouverts, ils sont spirituels un peu, forcément, par la force des choses. Mais c'est un peuple très, très cultivé. Et c'est ça qui est de si beau. Parce qu'ils vont tous à l'école. Ils sont une grande fierté, les Indiens. Puis ils envoient leurs enfants très, très jeunes à l'école. Puis il faut qu'ils étudient. Plus, évidemment, toute l'histoire de leur religion qui est l'histoire millénaire, oui, de leurs ancêtres et des c'est pas des saints, mais des... Comment t'appelles ça, là?
Je peux pas vous aider,
Louis. Mais t'es donc niaisu. Comment ça que je viens parler un gars niaisu? Mais on m'avait dit que t'étais intelligent et je suis déçue.
Parce qu'on a mal l'Inde. Je suis pas allée en Inde. Je suis désolée. Je me suis préparée pour parler de votre vie, mais de l'Inde.
Non, non, mais écoute, l'histoire de l'Inde, ben, c'est une histoire millénaire. C'est le début de notre humanité. Hein, on peut dire.
Est-ce que vous y êtes retourné? Vous êtes allée seulement une fois?
Non. Et je me suis dit que j'ai bien fait de ne pas. On ne retourne pas. Quand on a fait un voyage aussi magnifique, tu ne pourras jamais retrouver ce que tu as vécu, là, et tu risques... J'ai appris, avec le temps, de ne pas retourner sur le lieu du crime. Tu comprends-tu ce que je veux dire?
Oui.
C'est que ça ne donne rien. Il y aura toujours une déception parce qu'il n'y a pas l'émerveillement du début.
Jamais deux fois dans le même fleuve.
Voilà.
Comment est-ce que vous vivez les dernières années de votre vie, de votre carrière, parce que depuis une dizaine d'années, c'est comme si...
les dernières années de ma vie? Non, t'es sédentaire, mais pas de suite, là,
non,
toi.
Non, les dernières années que vous avez vécues, vous en reste plein devant vous.
Oui.
Mais je parle de la dernière décennie. Depuis une dizaine d'années, c'est comme si tout le monde se rendait compte d'à quel point vous êtes une grande comédienne puis une femme importante pour la culture québécoise.
Oui, mais là...
C'est comme si on l'avait un peu oublié avant.
Oui, mais tu sais, les choses sont... Comme tu vis, là, n'importe qui, toi, tu es un journaliste, moi, je suis une actrice, mais tu sais, moi, je suis dans ma maison, mon jardin, là, tu sais, je vis assez retirée. Je suis devenue beaucoup plus... de la misère à sortir, mais tu sais, on a eu des événements, on a eu de grands virus, on a eu des moments qui... Ce qui fait qu'on s'est... Tu sais, moi, j'étais plus vieille, on disait, il ne faut pas faire mourir la vieille actrice si sympathique, qui disait.
Qui disait ça?
Le monde. Le monde disait ça.
Mais c'est vrai, vous êtes sympathique.
Ah oui, je suis sympathique, moi. Puis, donc, je suis restée chez moi, je suis entrée dans une espèce de grande... Moi, je suis en psychanalyse depuis 20 ans. J'ai oublié de te dire ça. Je continue.
Encore à ce jour?
Oui. Et je suis... C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie.
Vous découvrez encore de nouvelles choses à
votre sujet?
Il y a toujours
quelque chose. L'humain est toujours en évolution. Et, tu comprends pas tout, puis tu comprendras jamais tout. Je te le dis tout de suite, là. Il y a toujours quelque chose qui est... Ah, ça, puis il revient, puis les sentiments, et puis les... Mais c'est un très, très beau voyage, la psychanalyse. J'aime, tu vois, hier, là, j'étais avec mon psy, justement, là, puis on parlait de... Quelle chance j'ai de pouvoir faire ça. Parce que je vis seule, tu comprends-tu? Ça fait qu'il faut bien que je parle à quelqu'un.
Ça ressemble à quoi, une séance de psychanalyse?
Tu parles... En fait, la psychanalyse, c'est parler, hein, Jung, c'est tu parles, et lui, le psychiatre, ne te répond pas nécessairement, mais par ce que tu vas dire, il va peut-être trouver tout à coup, tu sais, un mot ou quelque chose, puis il va te faire essayer de dire ça vous rappelle quoi, puis là, il va te faire aller dans...
Il tire sur les ficelles.
Oui, tire sur les ficelles. C'est ça, la psychanalyse. Et de ça à ça, là, tu vas tomber dans des endroits où tu n'étais peut-être jamais allé, où tu n'as jamais parlé. Puis là, ça sort. C'est tout. C'est la guérison par la parole. C'est tout.
Mais là où je voulais en venir, en vous parlant des dernières années, j'essayais de le faire de manière élégante, c'est que vous avez vécu un petit passage à vide, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Avant...
Ben, oui. Des passages à vide dans une carrière, on en passe. Il n'y a pas une carrière continue, là, sans jamais... Une actrice, surtout. Écoute, ben là, oui, un passage à vide. Mais là, moi, je me suis mise à dessiner. Parce que tu comprends, la chance que j'ai, c'est que je dessine et j'écris. Puis ma vieillesse ne pourra jamais être plate. Parce que j'ai des projets de dessin. Je dessine. Je dessine comme une enfant. Je n'ai pas fait de grandes études, puis j'écris un peu, je suis allée à l'école anglaise, je me force pour bien écrire en français, mais j'adore écrire et dessiner. C'est ma plus grande joie dans la vie, puis pour ma vieillesse, c'est ce que j'aime, c'est ce que je vais faire.
Comment est-ce que vous expliquez que tant de gens vivent leur vieillesse sous le signe de l'ennui?
Parce que probablement qu'ils n'ont pas de petits talents comme moi pour créer... Pour s'exprimer. Mais c'est dommage parce que tu n'as pas besoin d'un grand talent. N'importe qui peut se prendre une feuille de papier puis commencer à jouer. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Moi, je n'avais pas de science infuse pour dessiner et puis pour écrire non plus parce que j'avais peur. C'est Michel Tremblay qui m'a débarré. C'est parce que quand j'étais revenue de l'Inde, j'avais écrit mon journal, puis j'ai dit, Michel, veux-tu regarder pour corriger mes fautes? Il m'a dit, oui, j'en fais autant que toi des fautes. En tout cas, il dit, je vais regarder. Il dit, il y a des correcteurs pour ça. Pourquoi tu te fatigues? Il dit, tu sais, si tu as quelque chose à dire, c'est tout ce qui est important. Le reste, il y a des gens qui vont s'occuper de ça. Il dit, moi, je suis juste une 11e année comme toi, là, tu sais, n'effraie pas avec ça. Donc, je me suis mise, et Michel, il m'a libérée de ça. Ce qui fait que là, j'ai pu vraiment écrire librement sans me préoccuper des fautes que je faisais.
Ce sont les sœurs Talby.
Les sœurs Talby, mes amies.
Inès et Elkana qui signent la préface de votre livre que j'ai lu. Pourquoi est-ce que vous les aimez tant, les sœurs Talby?
Ben, les sœurs Talby, attends, elles sont tellement animées. C'est des filles qui chantent, des filles qui sont osées, c'est des artistes. C'est des filles habitées par... leur vie ici, quand elles sont arrivées, tu sais, ouais. Eux autres, là, ils ont vécu ça, là, être une immigrante, là, c'est chose.
Elkana en parle dans ses livres,
oui. Ah oui, elle en parle dans sa poésie. Puis, ouais. Puis moi, j'ai joué avec elle quand on. C'était avec Inès, quand on avait fait. Aide-moi, là, toi.
Le spectacle sais... hommage à Pauline Julien.
Voilà, merci. Ça, c'était formidable, formidable. Je ne rêve que d'une chose, c'est de recommencer à travailler avec les sœurs Talby.
Mais vous avez toujours eu des amis de différents âges, parce que vous avez aussi été amie avec Simone Monet-Chartrand, qui était oui. plus vieille que vous.
Oui.
C'était comment votre relation?
Oh, c'est la femme là que j'ai tellement... Je ne sais pas si j'ai pu élever mon enfant, c'est à cause de Simone. C'est elle qui m'a aidée à élever mon enfant. Elle avait 8, elle. Elle vivait avec un hostie de fou, là, tu n'oublies pas ça. Mais qui était merveilleux! Mais il était tellement...
Parce que on parle Michel... de Michel Chartrand.
Oui, Michel, c'était un homme très, très raffiné. Quand arrivait le dimanche pour manger chez les Chartrands, Michel écoutait son opéra, puis il lisait toutes les féministes. Il aimait beaucoup les auteurs féministes. George Sand, lui, tout. Ah, écoute, il était merveilleux, Michel. Alors, et puis Simone était la meilleure femme au monde, je ne crois pas. Elle, écoute, tu sais ce qu'elle faisait? Elle montrait aux femmes du Québec à se débrouiller. Elle savait l'importance de l'autonomie. Alors, montrer, elle a sept recettes. Comment faire du steak haché d'une façon différente chaque jour? Ce qu'elle faisait, tu sais, elle avait tellement de bon sens. C'était la femme d'un juge, la fille d'un juge qui avait eu une vie, tu comprends? Puis elle, c'était la bonté, la générosité et aider les femmes à se débrouiller, l'autonomie, l'indépendance. Toujours, elle me disait ça. Puis moi, j'avais une chambre pour elle que j'avais gardée au Saint-Louis parce qu'elle venait à Montréal, elle faisait de la radio, puis elle travaillait à Richelieu. Alors, je lui ai dit, tu vas arrêter de prendre l'autobus, puis je vais te faire une chambre, tu vas rester avec moi. Alors, elle restait chez nous.
C'était votre coloc.
C'était ma coloc. Elle m'a aidée à élever mon fils. On avait élevé 8, comprends-tu?
Mais pourquoi est-ce que Michel Chartrand, c'était un de fou?
Il n'était pas fou, Michel. Il était merveilleux.
Okay. C'est parce que vous avez dit ça.
Non, non, mais je suis fou dans le sens, c'est que les gens disaient, ah, parce qu'ils sacraient. Moi aussi, je sacre. Il n'y a rien de plus beau que les sacres. Tu sais, est-ce que je t'ai parlé comment j'aime sacrer?
J'ai cru comprendre ça, oui.
Ah, que j'aime ça, sacrer. C'est tellement beau, mais qu'est-ce que c'est que cette folie de penser que c'est pas bien sacré? Est-ce que tu sais qu'on est le seul pays au monde où on sacre? avec les ornements, ça sert de
tout. Oui, parce qu'en anglais, ça n'a pas du tout rapport avec
ben
ça.
Ben non, puis dans le reste du monde non plus. Puis là, parce qu'on dit Christ, mon Dieu, à sac, mais certainement que chaque, tu n'as même pas idée comment. J'adore ça, c'est beau, parce que c'est ça, chaque pays a ses... Aide-moi un peu, là. Toi, tu me regardes. Là,
chaque pays a ses jurons.
Voilà, jurons. Merci. C'est ça que je voulais dire. T'es fin.
Vous écrivez dans votre livre, « Je crois que si je retombais en amour, je mourrais. »
Ah oui, je serais plus capable. Oh non, c'est ça, c'est quelque chose.
Vous n'avez pas vécu l'amour doucement.
Ben, c'est parce que je suis une passionnée. Là, moi, je suis avec des passionnés. Mais là, je ne pourrais plus faire ça. Et puis, mon indépendance, tu sais, quand même, là, je l'ai méritée. Mais des fois, j'aimerais ça, tu sais, une épaule quand même. Mm-hmm. C'est agréable.
Il n'est jamais trop tard pour
tomber
en amour.
Il n'est jamais trop tard. Il paraît que ça peut arriver quand tu es dans ta maison de vieux. Là.
Mais vous n'êtes pas dans une maison de vieux.
Non, je suis loin de là. Je ne pense pas que je vais aller là, mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve.
Votre gériatre vous dit que vous allez vivre jusqu'à...
100 ans, qu'il me dit. Parce qu'il dit que rendu à 72 ou 83, dans mon cas, si tu n'as pas eu de grandes maladies. Mais ce n'est pas lui qui dit ça, on dit ça, là, dans... At large. Je parle anglais, hein? At large. Si tu n'as pas eu de grandes maladies, il y a de fortes chances que tu sois centenaire. Parce qu'on mange de mieux en mieux, on va avoir des médicaments. Donc, on va tout être une gang de centenaires tout à l'heure. Je dis que ça va soigner la baquesse.
J'ai rencontré récemment Jeannette Bertrand qui a 98 ans puis qui soigne la baquesse quand même pas mal.
Oui,
elle-même.
Je ne sais pas si on va pouvoir être aussi en forme. Il y a une question d'ADN aussi, là, tu sais, dans le cas de Jeannette. Là, attends, c'est un phénomène, Jeannette, pas ordinaire.
Oui. Tu sais. Vous parlez dans votre livre de votre relation qui a été parfois compliquée, tendue avec votre frère Guy, qui était lui aussi dans le monde artistique. Est-ce que vous êtes rabiboché? Est-ce que c'était plus agréable plus tard dans vos vies?
Mais ça a été toujours... Tu sais, Guy, c'était le dieu, le premier, le dieu. Le dieu est arrivé sur Terre, et puis ma mère a viré de l'œil, et puis c'était son enfant adoré. Et elle n'a pas eu le temps vraiment de pouvoir profiter de son enfant. Moi, je suis arrivée 11 mois après, par les pattes, tourner avec les fers, là, comment est-ce qu'ils appelaient
ça? Les forceps.
Ça, les forceps. Et puis, ma mère a été malade, puis elle a été envoyée dans un sanatorium pendant 3 mois.
Pour se remettre de l'accouchement.
Et puis, ben moi, j'avais pas de mère, puis là, je suis restée avec ma grand-mère ennuyante, là, et qui était ennuyante, elle oh mon Dieu, ça fait que j'ai mal parti dans la vie, moi, là. Pas de mère, pas de manger avec ma grand-mère. Tout, elle mangeait juste du blanc, elle. Du poulet blanc avec du riz blanc, avec la soupe blanche, avec du blanc mangé, qui a été ennuyant.
Mais ça a teinté toute votre relation pendant toute votre vie avec votre mère.
Ma mère, c'est ce... Oh, ma mère, les dernières paroles qui lui regardent la vie comme c'est intéressant. Ça a toujours été difficile, ma mère et moi. Tu sais, il y avait... Oui, c'était difficile. Et les dernières paroles qu'elle a eues, je m'en vais à l'hôpital à voir, puis je suis tout près d'elle, elle va mourir, puis elle me dit « Oh, t'es tellement belle, je t'aime! » Elle m'avait jamais dit ça. Ça a guéri tout! Mais c'est vrai, ça a tout guéri. Puis là, moi, j'avais apporté des onguents pour faire comme les Égyptiens, là, tu sais, pour me tuer là, d'huile et puis d'odeur et de trucs pour ma mère, là. Puis je l'avais frotté, puis tout ça, mon frère a dit, c'est qu'elle est folle.
Mais ces quelques mots-là ont guéri beaucoup de choses
en
vous.
Ont guéri! Oui, c'est comme si ça avait tout guéri. Il reste quelques... Bien sûr qu'il reste des choses. Vous savez, je veux dire, tout le temps, il y a en moi une pas correcte qui est toujours là, là, tu sais.
Est-ce que vous revoyez parfois les films dans lesquels vous avez tourné?
Pas vraiment, non.
Non?
Non. Je me regarde pas beaucoup, moi.
Parce que c'est difficile?
Non. Je pense pas. Je pense pas.
Mais je comprends que lorsqu'on choisit un film, on veut pas nécessairement en choisir un dans lequel
non,
on veut tourner.
Non, mais j'ai revu Entre la mer et l'eau douce, mais c'est tellement beau. Est-ce
mais
que
oui.
tu l'as vu?
Mais oui.
As-tu vu comment c'est beau, comment on est belle? Geneviève, un jour, elle me téléphone, m'a dit, as-tu vu comment est-ce qu'on était belle? Elle dit, on le savait pas, hein? On l'avait su, on les aurait fait chier bien plus que ça.
Puis Claude Gauthier est tellement... j'ai pas d'autres mots en tête que cool, mais il est mystérieux.
Cool, et... gentil, drôle. Puis lui aimait Geneviève, et qui aimait Geneviève. Oh, c'était si délicieux. Puis Robert qui nous faisait rire, tu sais. Ben oui, c'était plaisant parce qu'on était tous des amis quand même, là, hein? Déjà.
Comment se manifeste aujourd'hui votre quête de liberté? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui, être libre?
Mais d'abord, être libre, tu sais. Tous les jours, je remercie tous les dieux de vivre en ce pays. Je n'ai jamais connu la guerre. J'ai 83 ans. J'ai une telle reconnaissance de cette chance de vivre dans ce pays libre. Là, là.
Les événements d'octobre qu'on évoquait à l'instant, c'est peut-être le plus grand moment de tension qu'on a vécu au cours des 100 dernières années.
Oui, oui. Et autrement...
Et ça a été quand même assez bref.
Oui. Donc, j'apprécie et de vivre ici. J'ai même plus envie de voyager. Tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde, puis être pris dans les avions avec tout ce qu'il y a de virus. Puis, je ne veux plus sortir de mon pays. Je suis ravie de faire de la tournée parce que là, je vais aller voir tout ce que j'aime de mon pays. Je vais aller partout. J'aime mon pays plus que jamais. Puis je vais aller au Saguenay, puis je vais aller... Oh, mon Dieu, que je suis contente.
Est-ce que vous êtes encore indépendantiste?
Ben oui, je le serai toujours. tu peux m'enlever ça. Tu peux pas m'enlever ça. Je vous rêve du pays. Bien sûr que je rêverai toujours de ça.
Louise, mon balado s'intitule « Juste entre toi et moi ». Je me demandais si vous aviez une dernière chose à me dire qui resterait juste entre vous et moi.
T'es charmant.
Pas un compliment.
Mais t'es charmant. Vous c'est tellement gentil. Plaisant de causer avec toi. Je peux même pas croire qu'on a fait une émission.
Est-ce que je peux vous demander quelque chose?
Oui.
Je sais pas si vous savez, mais lorsque Emmett est parti en 78, un de mes poètes préférés qui s'appelle Richard Brautigan a écrit un poème hommage à Emmett Goggin qui s'intitule « Death is a beautiful car parked only ».
Yes!
Est-ce que vous accepteriez de le lire pour moi?
Avec plaisir.
Je l'ai ici, dans sa version, dans sa traduction française, évidemment.
La mort est une magnifique voiture garée, uniquement pour être volée, dans une rue bordée d'arbres dont les branches sont comme les intestins d'une émeraude. Tu démarres la mort avec les câbles de contact. Tu montes et tu t'en vas comme un drapeau fait de milliers de pompes funèbres en feu. Tu as volé la mort parce que tu t'ennuyais. Il n'y a rien de bien au cinéma à San Francisco. Tu roules un moment au volant de la voiture volée en écoutant la radio, puis tu abandonnes la mort. Tu t'éloignes à pied et tu laisses la mort que la police finira à retrouver. Père Emmett aimait beaucoup Brautigan. Et beau.
Merci, Louise.
Merci beaucoup.
Juste entre toi et moi.